France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Taylor Swift. Taylor Swift dans Affaires Sensibles. Non, ce n'est pas une erreur, vous avez bien entendu. Parce que peu importe que vous soyez familier ou non de sa musique, peu importe que vous aimiez ou non ses chansons, Taylor Swift est bien plus importante que vous ne le pensez. Elle est même, à elle seule, un phénomène planétaire, musical, culturel, social, médiatique, économique et surtout politique. Car elle est en passe de devenir l'une des personnes les plus influentes aux États-Unis. Bien qu'attendu, sa prise de position récente en faveur de la candidate démocrate Kamala Harris a créé un séisme. Parce que derrière la chanteuse, on trouve une communauté soudée de plusieurs dizaines de millions de fans et de jeunes électeurs américains. Son influence est telle qu'en février 2024, un sondage commandé par le média américain Newsweek révélait que 18% des électeurs américains se disent plus susceptibles ou nettement plus susceptibles de voter pour un candidat soutenu par la chanteuse. Du jamais vu. Et qui génère cette question, bien sûr, Taylor Swift peut-elle faire basculer l'élection américaine? Notre invité aujourd'hui, Xavier Yvon, chef du service reportage de France Inter et producteur du podcast France Inter, consacré à Taylor Swift, précisément, et qui est mis en ligne aujourd'hui. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Juliette Proutot, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel. Affaires Sensibles sur France Inter.
Tous les ans, depuis plus d'un siècle, le célèbre Time Magazine choisit un individu et le met en couverture de l'édition la plus importante de l'année, celle de la Person of the Year, personnalité de l'année. En réalité, jusqu'en 1998, il faut savoir qu'on parle uniquement d'homme de l'année. Toujours est-il que l'hebdomadaire décerne ce titre à la personne qui a marqué le plus ces 12 derniers mois, pour le meilleur ou pour le pire. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Il ne s'agit pas d'une simple tradition médiatique, honorifique, mais bien de la reconnaissance d'un pouvoir, d'une influence. En d'autres termes, il s'agit d'une reconnaissance, et elle est politique. D'ailleurs, la plupart des individus récompensés sont des politiciens ou des géants de l'industrie. Parmi les heureux élus, on ne compte pas moins de 14 présidents américains, 5 leaders russes ou de l'ex-URSS et 3 papes. Churchill fut aussi honoré, comme Gandhi, Einstein, Mark Zuckerberg, Elon Musk, les stars de la tech, ou encore Volodymyr Zelensky en 2022, de grosses pointures. Mais pour l'édition de décembre 2023, c'est un profil différent qui a été choisi, et c'est une femme. Elle n'est pas à la tête d'un pays, n'a pas fait la guerre, et n'est pas non plus un génie du numérique. En 2023, la personnalité considérée comme la plus influente de l'année est une jeune chanteuse américaine. Elle s'appelle Taylor Swift. Et c'est la première fois de son histoire que le magazine décerne son prix à un artiste tout genre confondu. La nouvelle fait le tour des médias du monde entier, France Inter compris, avec Mathilde Serrel dans la matinale du 7 décembre 2023.
Autant dire que pour des journalistes qui scrutent les phénomènes culturels comme moi, c'est plus que Noël. C'est le vent de l'histoire qui souffle en une du Time. Le magazine américain officialise enfin le pouvoir de la pop culture sur la transformation du monde. Écoutons Taylor. À 33 ans, Taylor Swift est une illustration majeure de cette pop culture et l'influence de la superstar de la country pop ne cesse de grandir. Mais la une de Time Magazine en tant que personnalité de l'année, c'est pas un record de plus, c'est pas un signal de plus pour Taylor Swift, c'est un moment de bascule.
Et voici comment le rédacteur en chef du Time Magazine justifie ce choix. Dans un monde divisé où tant d'institutions faillissent, Taylor Swift a trouvé une façon de transcender les frontières et de devenir une source de lumière. Personne d'autre sur la planète aujourd'hui ne sait faire bouger, dans tous les sens du terme, les gens comme elle le fait. Pour expliquer ce phénomène, on va souvent parler de destin, d'alignement des planètes. Mais ce serait donner trop de crédit aux étoiles et pas assez à son talent et à son pouvoir. À son pouvoir. Bien, mais De quel pouvoir parle-t-on exactement, s'agissant d'une chanteuse au profil somme toute assez lisse? Taylor Swift, personnalité de l'année, c'est une incongruité quand on s'arrête sur cette image. Mais c'est une évidence, si l'on dépasse les clichés, souvent sexistes d'ailleurs, qu'on observe plus attentivement le parcours de la jeune femme, ce qu'elle incarne, et l'ampleur inégalée de son influence. Oui, avec Taylor Swift, tout est politique.
Disons que maintenant, j'aime 25% de moins la musique de Taylor.
Découvrez les coulisses d'un immense phénomène savamment orchestré. Taylor Swift, tout le monde se l'arrache.
Pour comprendre l'étendue de son pouvoir, il faut d'abord prendre conscience de l'envergure de son empire financier. Si la chanteuse bat tous les records quand on parle de musique, sa puissance économique est inédite. En avril dernier, à 34 ans, elle devient ainsi la première artiste, homme et femme confondus, à devenir milliardaire uniquement grâce aux revenus issus de sa musique. Elle ne doit pas son argent à des investissements dans le marché du luxe, par exemple. Elle n'a pas lancé de marque de cosmétiques ou de champagne. Non, tout ce qu'elle possède provient de la musique. Et à ce niveau-là, là encore, on n'avait jamais eu ça. Et pour continuer dans les records, ce qui n'est pas très difficile avec Taylor Swift, sa dernière tournée est la plus lucrative de tous les temps. Quand elle s'achèvera, à la fin de l'année, ses recettes devraient rapporter à la chanteuse près de 2 milliards de dollars. Mais au-delà de sa fortune personnelle, c'est surtout l'argent qu'elle génère partout où elle passe qui la rend incontournable et, économiquement, inévitable. Certains pays en viennent ainsi à payer la star pour qu'elle se produise chez eux et pas chez le voisin, causant au passage quelques tensions politiques, à l'image du gouvernement de Singapour. Situation inédite expliquée sur TF1 dans le quotidien.
Singapour, ce petit état insulaire très riche, a négocié une exclusivité régionale pour la tournée de Taylor Swift avec 6 concerts début mars. Le deal signé par Singapour a été vécu comme une humiliation. Le Premier ministre thaïlandais qui a révélé l'existence de cette clause qui prive toute l'Asie du Sud-Est de Taylor Swift. Résultat, le Premier ministre de Singapour a été sommé de s'expliquer en conférence de presse.
Et Taylor Swift donne un concert à Singapour, nous avons négocié et un accord a été trouvé. Je ne vois pas cela comme une manœuvre inamicale avec nos voisins. Parfois, un pays réussit à monter un deal, parfois c'est un autre pays.
Et en Malaisie, Taylor Swift a même donné lieu à une controverse au Parlement. La majorité au pouvoir, attaquée pour son échec sur le dossier Swift, a répondu que le parti islamiste qui domine l'opposition n'aurait jamais accepté la tenue de la chanteuse.
Si j'ai un conseil à donner aux dirigeants de l'opposition qui souhaitent que davantage de célébrités se produisent en Malaisie, je leur dirais ceci. Commencez par contrôler l'obsession de vos amis islamistes et leurs esprits malveillants.
Et si des gouvernements sont prêts à payer des millions pour un concert, avec de l'argent public, ce qui est quand même assez invraisemblable, c'est bien parce que l'investissement est lucratif. Les 6 concerts donnés à Singapour en mars 2024 ont ainsi rapporté au pays un peu plus de 400 millions de dollars, soit presque 0,3% du PIB local pour le premier trimestre 2024. D'ailleurs, la très sérieuse banque centrale américaine, la Fed, observe désormais l'existence d'un effet économique Taylor Swift. Comme le confirmait en septembre dernier John William, président de l'établissement bancaire.
Il y a clairement un effet Taylor Swift sur les dépenses des consommateurs parce que les gens ont dépensé pour le concert, l'hôtel, et tout cela a été un phénomène important.
C'est l'économie de Taylor Swift et nous vivons tous dedans, titrait le Wall Street Journal après l'annonce de John William. Comme ça, c'est clair. Et c'est bien pour profiter de cette économie que certaines villes américaines se sont lancées corps et âme dans la bataille pour accueillir les concerts de Taylor Swift. Une fois le précieux sésame acquis, la reconnaissance des villes semble n'avoir aucune limite. Il y a Santa Clara, par exemple, en Californie, qui, après avoir reçu la star, a nommé la chanteuse maire honoraire de la ville, afin de célébrer, selon la mairie, l'impact positif local et régional de la musique de Taylor Swift. La ville allemande de Gelsenkirchen a fait installer un nouveau panneau municipal intitulé Swiftkirchen, après le passage de la chanteuse. Swiftkirchen, en allemand, ça signifie l'église de Taylor. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont la jeune femme explique la construction de cet empire, le récit qu'elle propose. Elle s'est construite sur une image d'outsider. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se présente à ses fans, ainsi que dans l'une de ses chansons anti-héros.
Je suis le problème, c'est moi. À l'heure du thé, tout le monde est d'accord. Je regarde le soleil directement, mais je ne me regarde jamais dans le miroir. Ça doit être épuisant de toujours encourager l'anti-héros. Parfois, j'ai l'impression que tout le monde est sexy et je suis un monstre sur la colline. As-tu capté mon narcissisme que je déguise en altruisme, comme une sorte de député ? Je me réveille en hurlant. Un jour, je te regarderai partir et la vie perdra tout son sens. C'est moi, oui. C'est moi le problème.
Et si la chanteuse séduit des millions de fans, c'est grâce à ce récit précisément. Oui, c'est ça qu'elle vend. L'histoire de l'outsider, de la fille pas populaire, toujours un peu à côté, en décalage. Alors c'est peut-être un peu difficile à imaginer quand on la voit aujourd'hui. Mais c'est probablement de cette façon qu'elle se voyait elle-même. Et il serait douteux de douter de sa sincérité. En tout cas, elle le raconte avec suffisamment de talent pour nous donner envie d'y croire. C'est de cette façon que ses fans expliquent leur enthousiasme. Comme le montre ce témoignage, diffusé sur France 2 pour envoyé spécial Taylor Swift, c'était en juillet dernier.
Quand elle nous donne ses chansons, on a vraiment l'impression que c'est comme si c'était notre pote qui nous dit « Tiens, lis mon journal intime ».
Elle arrive à mettre des mots sur des choses qui vous parlent, en fait.
Ouais. Que même moi, j'arriverais pas forcément, en fait. Vraiment, je me suis rarement autant sentie proche d'une artiste musicale.
Taylor Swift, c'est leur amie, leur grande sœur idéale. Une version 10.0 de la Girl Next Door et du rêve américain. Tous les ingrédients d'une success story comme seul Hollywood s'est en imaginé sont réunis. Une toute jeune adolescente, blanche et blonde, cela a son importance, issue d'une petite bourgade et qui convainc ses parents de déménager dans une grande ville pour lui permettre de suivre son rêve, devenir chanteuse. À force d'acharnement, elle se fait repérer par un manager qui comprend immédiatement son talent et qui la transforme en star. Voilà, dans les grandes lignes, la façon dont ça s'est passé pour notre héroïne. Issue d'une famille relativement aisée, catholique pratiquante, elle a 14 ans quand elle déménage de sa petite bourgade en Pennsylvanie avec son frère et ses parents pour Nashville, Tennessee. Nous sommes en 2003. L'adolescente veut faire de la country, et la capitale de cette musique, eh bien c'est Nashville. Elle sait ce qu'elle veut. Force est de reconnaître dans cette toute jeune femme une obstination forcenée qui, couplée à une capacité de travail hors du commun, va la conduire exactement où elle se trouve, c'est-à-dire sur le toit du monde. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que déjà à l'époque, alors qu'elle écume les petites scènes et autres cafés-concerts de Nashville, elle sait mobiliser le public à son avantage. Écoutez-la, dans le documentaire Miss Americana de Netflix, elle a 16 ans.
Vous savez que j'ai sorti un single il y a un mois maintenant. Alors je vais vous donner une petite mission. Il y a cette radio, KCLA. Et j'aimerais vraiment qu'elle passe ma chanson. Vous imaginez pas à quel point. Donc je voudrais que chacun de vous les appelle, genre 5 fois par jour, pour leur dire que vous voulez entendre la chanson Tim McGraw, d'une certaine Taylor Swift.
Il y a quelque chose de la force tranquille et de la confiance décomplexée chez cette adolescente capable d'arranger une foule et de la faire bouger, au propre comme au figuré. Elle transforme, dès ses tout débuts, son public en fans et ses fans en communauté. Une communauté soudée qui grossit tellement qu'elle en devient incontournable. On les appelle les Swifties. Et on parle aujourd'hui de centaines de millions de personnes qui s'abreuvent de ses chansons et qui suivent leur égérie sur les réseaux sociaux. Une communauté, donc, est-elle prête à tout pour sa star? Oui, elle l'a déjà démontré, quand en 2019, elle permet à Taylor Swift de réussir un coup jusque-là absolument nouveau dans le monde de la musique. À cette époque, les droits des albums de la chanteuse sont vendus par sa maison de disques Scooter Braun, un manager un peu véreux. Swift décide alors de tout tenter pour les récupérer. Et c'est là qu'elle est maligne, et qu'elle fait ce qui n'avait jamais été fait avant elle. Au lieu d'essayer de racheter les droits de ses précédents albums, elle décide de tous les réenregistrer. Pas tout à fait à l'identique, mais presque. On parle des Taylor's versions. Et quand la chanteuse demande à sa communauté d'acheter ou d'écouter sur les plateformes uniquement ces versions-là, les fans s'exécutent instantanément et massivement. De là à dire que sa communauté est prête à suivre ses consignes de vote à la prochaine élection américaine, il y a un pas, mais qui n'empêche pas de préoccuper sérieusement Donald Trump.
Disons que maintenant j'aime 25% de moins la musique de Taylor. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like damn. It's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop out, and I'm just like hey, are you okay? Self-expression, but I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so oh, 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 you need to calm down. You're being too loud, and I'm just like oh, 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 you need to just stop. But can you just not?
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Taylor Swift, phénomène total. Are you ready
for it? Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Alors, Taylor Swift, si vous ne connaissez pas, c'est ça. Ça. Ou encore ça. Taylor Swift dans ses œuvres. Il serait laborieux d'énumérer tous les records. De toute façon, c'est bien simple, elle les a tous battus. Aujourd'hui, elle est l'artiste la plus écoutée de tous les temps. À Nashville, cette femme de 34 ans fait ses gammes et explose dans un genre bien particulier, la country. Hey, I'm Taylor Swift and you're listening to The Morning Drive with Mike, Deke and Joanne on Q104. You're number one. Musique traditionnelle américaine par excellence, la country, ou la country comme disent les Français, apparaît au début du XXe siècle dans le sud du pays. Elle se caractérise par l'utilisation de certains instruments, comme la guitare dobro, le banjo, le violon ou la contrebasse, et une certaine forme de simplicité mélodique. On dit d'ailleurs, en reprenant la formule du compositeur Harlan Ward, que la country, c'est trois accords et la vérité. Et Swift embrasse ce précepte avec talent. Fan inconditionnel de la grande artiste country Shania Twain, l'écriture est au cœur de sa musique. Fait suffisamment rare pour être souligné, dès son premier album, qu'elle sort en 2006, elle signe ou co-signe la totalité de ses chansons. C'est, et ce sera toujours, l'une de ses plus grandes forces, une capacité hors du commun pour traduire en mots et en musique les émotions, les sentiments, les sensations. Elle a 17 ans à peine, et son disque cartonne dans le monde de la country. Pourtant, c'est tout sauf une évidence pour une jeune femme de réussir dans cette musique traditionnelle, donc une musique d'homme, guitare et testostérone. Sous prétexte que cela dérange les auditeurs et aujourd'hui encore, les radios country ne diffusent jamais deux chansons d'affilée chantées par des femmes, figurez-vous. De façon générale, aux États-Unis, dans la country, tout est politique, sensible. Preuve en est, quand Beyoncé, superstar américaine, sort un album country, eh bien la polémique est immédiate. Une superstar noire. La polémique immédiate et importante. D'ailleurs, l'information est reprise sur France 24 le 10 septembre dernier.
La reine du R&B, toujours rejetée du monde de la country. C'est ce qu'affirment les fans de Beyoncé depuis l'annonce lundi des nominations pour les Country Music Awards. Mais aucune pour Beyoncé, dont l'album country Cowboy Carter a pourtant rencontré un succès phénoménal. Beaucoup dénoncent la permanence du racisme et du sexisme dans l'univers de la country.
Un camouflet aussi flagrant me dit que les membres du comité de nomination ne pouvaient pas supporter l'idée qu'une femme noire, qui ne correspond pas à leur idée d'une star de la country, domine les plus grandes catégories de la cérémonie.
Sorti au printemps, Cowboy Carter est le premier album d'une femme noire à se classer en tête du palmarès des albums country. Et son single Texas Hold'em s'est aussi hissé en première place des classements country et généraux. Une œuvre née de la propre expérience de Beyoncé, qui disait déjà ne pas se sentir bienvenue sur la scène country.
Taylor Swift, elle, incarne tout ce que l'Amérique conservatrice adore. Une jeune fille aussi blonde que sage, aussi belle que gentille, aussi chaste qu'apolitique. C'est avec son deuxième opus, Fearless, sorti en 2008, que la chanteuse fait exploser l'industrie musicale. Elle y raconte sa vie, ses doutes existentiels et amoureux d'ado américaine. A priori, rien de très passionnant. Et pourtant, tout prix confondu, il s'agit du disque le plus récompensé de l'histoire de la country. Aux Grammy Awards, les équivalents des Oscars pour la musique, il remporte à la fois le prix du meilleur album country et celui du meilleur album tout court. L'une des forces de la toute jeune autrice-compositrice, c'est de parvenir à faire sortir la country de son spectre habituel et surtout d'en faire un objet destiné aux adolescentes et adolescents. Ce créneau n'existait pas, elle l'a inventé avec Maestria. Au fur et à mesure des années, elle se détache de ce genre musical pour prendre un virage définitivement pop en 2014 avec son album 1989. C'est à ce moment-là qu'elle change de dimension médiatique pour passer dans un registre, disons, stratosphérique. Pour autant, le fait de venir de la country est tout sauf anecdotique dans la dimension politique de Taylor Swift. On l'a dit, c'est une fille du sud des États-Unis qui a commencé sa carrière dans la branche la plus traditionnelle de l'industrie musicale américaine. Étant donné que la jeune chanteuse semble particulièrement réfractaire à l'idée de s'exprimer sur des sujets politiques, ils sont nombreux à l'imaginer, à l'espérer secrètement supportrice du camp conservateur. Non seulement c'est une star qui incarne parfaitement leur vision de l'Amérique au féminin, mais c'est une star qui ne s'engage pas, qui ne dérange pas. En 2012, à plusieurs reprises, elle dira
« Je ne parle pas de politique car cela pourrait influencer certaines personnes. Je suis une chanteuse de 22 ans et je ne sais pas si les gens veulent vraiment entendre mes opinions politiques. Ils veulent juste m'entendre chanter des chansons parlant de rupture et de sentiments. »
Et donc, elle ne dit rien au moment de l'élection puis de la réélection d'Obama. À peine encouragera-t-elle ses compatriotes à aller voter 4 ans plus tard, en 2016, mais sans pour autant se prononcer pour un candidat. Et ne croyez pas que c'est un détail, que les opinions politiques de la chanteuse n'intéressent personne. Parce que le 16 décembre 2016, jour de l'élection de Donald Trump, la question la plus fréquemment posée sur Internet aux États-Unis ne concerne aucun des deux candidats, non. La question la plus posée est « Pour qui a voté Taylor Swift ?» Si elle n'a pas soutenu Trump, le milliardaire, lui, l'adore. Elle ne s'en cache pas. Melania Trump poste parfois des vidéos de son mari et de son fils chantant sur les tubes de la jeune femme. Swift a trouvé la position parfaite. Avec son virage pop et ses textes intimes, elle s'ouvre à une audience de plus en plus large, sans pour autant perdre son public historique, plutôt conservateur. Alors pourquoi est-elle sortie d'un silence politique duquel elle avait tout à gagner ? Qu'est-ce qui a bien pu amener la star supersonique à s'exposer ? La réponse n'est pas si compliquée. Taylor Swift est une femme qui, comme trop de femmes de cette planète, a été agressée sexuellement par un certain David Muller, un animateur radio qui lui tombe dessus en 2013 lors d'une séance photo. La chanteuse a 24 ans, elle porte plainte et gagne son procès en août 2017. L'autrice Morgan Giuliani revient sur cet épisode pour Envoyé spécial diffusé en juin dernier.
À ce moment-là, on avait peu de stars qui s'exprimaient sur ces sujets-là. Il y a des journalistes présents lors de ce procès qui sont très étonnés par la manière dont s'exprime Taylor Swift. Elle est très ferme pendant les interrogatoires. Elle emploie même des mots très forts où elle dit « Vous aurez beau me le demander 1000 fois, je vous dirai la même chose. Il a mis sa main sur mon cul, je ne vous dirai pas autre chose. » Et donc là, s'écroule complètement l'image de la petite fille très timide, sage, bien élevée. Et là, finalement, au contraire, c'est une femme adulte, très énervée d'être là, très énervée qu'on mette en doute sa parole, qui s'affirme. Et finalement, avec ce procès-là qu'elle remporte, elle marque les esprits.
Quelques semaines plus tard, la vague MeToo déferle sur le monde. Taylor Swift, dont le procès aurait pu passer inaperçu, se met alors à incarner avec quelques autres ce moment historique de la lutte féministe. En décembre 2017, elle figure avec 4 autres femmes en Indie Time, intitulée « The Silence Breakers », les briseuses de silence. C'est la première fois que la chanteuse s'engage publiquement pour une cause. Une cause progressiste, qui plus est. Taylor Swift surprend. Comme souvent dans sa carrière, elle ne se place pas exactement où l'attend. Elle se place où elle veut. Et puis elle grandit avec les enjeux de son siècle. Ce premier mouvement politique préfigure un virage politique plus sérieux encore, qu'elle nous donne à voir dans le documentaire de Netflix intitulé Miss Americana. Dans cette scène, elle tente d'expliquer à son équipe, et surtout à son père, qu'elle doit prendre parti concernant les élections qui se déroulent dans son état, au Tennessee. Elle s'insurge notamment contre la candidate républicaine Marsha Blackburn.
It really is a big deal.
Elle vote contre un salaire équitable pour les femmes. Elle vote contre la réautorisation du Violence Against Women Act, qui nous protège de la maltraitance et du harcèlement. Du harcèlement. Elle pense que si on est un couple gay, ou même si tu ressembles à un couple gay, tu dois pouvoir être viré d'un restaurant. Vraiment, c'est les droits fondamentaux de l'homme et c'est le bien contre le mal à ce stade. Et je ne peux plus voir une autre publicité et la voir déguiser ses idéologies derrière les mots « valeurs chrétiennes du Tennessee ». Ce ne sont pas les valeurs chrétiennes du Tennessee. Je vis dans le Tennessee. Je suis chrétienne. Ce n'est pas ce qu'on soutient.
Le 7 octobre 2018, en pleine campagne pour les midterms du Tennessee, Taylor Swift se prononce pour le camp démocrate. C'est une bombe. La machine médiatique et politique s'emballe. Si, d'un point de vue numérique, le message de la star fait mouche, plus de 2 millions de likes, tout de même. Dans la vie réelle également, sa prise de position a des conséquences. Les inscriptions sur le site d'enregistrement électoral vote.org explosent. Du jamais vu dans la campagne. 3 fois plus de personnes s'inscrivent en 3 jours que durant tout le mois de septembre. La directrice de communication de la plateforme s'émeut d'un Dieu merci via Taylor Swift. Les élus démocrates locaux, eux, n'en reviennent pas de ce soutien. Un cadeau du ciel. Évidemment, pour les républicains, la pilule est difficile à avaler. Enfin, c'est incompréhensible. Taylor Swift, c'était leur symbole, celui de leur Amérique. Signe de son influence, le président Trump lui-même réagit à la déclaration de la chanteuse, déclarant amèrement qu'il aimait désormais un peu moins Taylor Swift. et sa femme n'a plus jamais posté de vidéo du milliardaire chantant sur ses chansons. Il est dit par ailleurs qu'une tause Fox est carrément créée chez les Républicains dans le cas où Taylor prendrait la parole contre Trump. Ce qu'elle fait justement, quelques années plus tard, à l'occasion de l'élection de 2020, postant un message sur Instagram en faveur de Joe Biden. Si ces prises de position ne vont jamais plus loin que des messages sur les réseaux sociaux, ces derniers n'en ont pas moins des effets très concrets. Suffisamment en tout cas pour que la Commission européenne, profitant de sa tournée sur le vieux continent, passe des semaines à tenter de convaincre la chanteuse de poster un message incitant les jeunes à aller voter pour les élections européennes. En vain.
Taylor Swift broke her silence on politics over the weekend.
Toujours est-il que la chanteuse paie cher ses engagements. La frange la plus conservatrice du pays ne lui pardonne pas ce qu'elle vit comme une trahison. Sans compter que ses engagements féministes ont fini par en agacer plus d'un. Le harcèlement en ligne de Taylor Swift atteint alors son apogée en janvier 2024, quand de fausses images pornographiques la représentent, inondent les réseaux sociaux et asociaux. Le phénomène est tel qu'il a repris dans le 18-20 de France Inter.
C'est une affaire qui a fait le tour du monde cette semaine.
Sexual deep fake photos of Taylor Swift went viral on social media.
Imágenes pornográficas ultra falsas de la famosa cantante estadounidense.
Decine di foto di nudo esplicito generate con l'intelligenza artificiale.
En début de semaine, ces fausses images porno de Taylor Swift ont été massivement diffusées sur des forums et sur X, anciennement Twitter. Je vous épargne les détails, Fabienne, mais on voit la chanteuse qui pose nue dans des positions suggestives, entourée de supporters de foot américains. Son petit ami, Travis Kelce, va jouer la finale de Super Bowl dans quelques jours. Une de ces images a été vue 47 millions de fois et pendant de très longues heures, X a dû bloquer toutes les requêtes liées à la recherche Taylor Swift.
À ces campagnes de harcèlement s'ajoutent de nombreuses théories du complot. Ainsi, une étude récente de l'université du New Jersey révèle que 18% des Américains pensent que Taylor Swift est une arme secrète du gouvernement pour permettre l'élection de la candidate démocrate. Mais ces théories n'empêchent pas la star de maintenir son engagement et de se prononcer pour Kamala Harris immédiatement après le dernier débat pour la présidentielle. Nous sommes le 11 septembre 2024. La nouvelle est reprise partout, notamment sur France 24.
Je vais voter pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l'élection présidentielle de 2024. Kamala Harris se bat pour les droits et les causes qui nécessitent, selon moi, une combattante pour les défendre.
Une allusion directe aux propos sur l'avortement et les droits des femmes émis par le candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance. À 2 mois de l'élection, ce soutien arrive à point nommé pour le camp démocrate. Avec ses quelques 280 millions d'abonnés, l'artiste originaire du Tennessee pourrait avoir une influence notable dans les États du Midwest, plus traditionnellement conservateurs. Même si elle laisse ses fans choisir eux-mêmes leurs candidats, dans le camp démocrate, la satisfaction est là.
C'est une icône culturelle. Un conseil à Donald Trump, ne dénigrez pas ce soutien, c'est à vos risques et périls.
Chez les Républicains, les rares qui réagissent ironisent sur l'importance de ce soutien.
J'aime quand les démocrates s'occupent des artistes et quand les Républicains, eux, s'occupent de politique et des lois de notre pays.
Comme un pied de nez à J.D. Vance, le colistier de Trump, qui a beaucoup attaqué Kamala Harris en la qualifiant d'hystérique, qui n'avait pas d'enfant, de femme à chat, eh bien c'est par ces mêmes termes que la chanteuse signe son message de soutien. Pourrait-elle aller plus loin dans son engagement d'ici les élections ? À voir. Mais les Républicains savent désormais qu'ils ont des adversaires sérieuses, notamment parmi les femmes à chat et sans enfants. Taylor Swift sur France Inter. L'histoire de Taylor Swift dont nous parlons maintenant avec notre invité Xavier Yvon. Bonjour.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Vous êtes chef du service reportage de France Inter et producteur du podcast France Inter consacré à Taylor Swift précisément. Vous avez été correspondant aux États-Unis pour une autre radio, donc vous connaissez bien ce pays. Alors, donc pourquoi ce projet sur Taylor Swift ? Vous étiez fan vous-même ?
Ah non, pas du tout. Alors c'est ma fille qui était fan et c'était avec elle que j'ai fait le podcast, qui s'appelle d'ailleurs Taylor Swift, Le Monde, ma fille et moi.
Absolument.
Ma fille Sacha, qui avait donc 13 ans à l'époque où on a fait le podcast, en fait, ça part d'une curiosité. On est journaliste, on est curieux, on a envie de comprendre le monde qui nous entoure. On a offert à notre fille pour ses 13 ans des billets pour le concert de Taylor Swift. Elle était fan, voilà. Et puis, voilà, les enfants sont toujours fans d'artistes que les parents connaissent pas forcément. C'est toujours arrivé, ça arrivera. Mais là, c'est une artiste qui a une ampleur telle, vous l'avez très bien décrit dans le récit, que je me suis dit, c'est pas possible que je comprenne pas. Enfin, pourquoi il y a autant de gens comme ma fille, des centaines de millions de personnes qui sont fan de cette chanteuse qui, effectivement, au départ, elle est un peu lisse, les chansons, bof, bon, elles restent pas trop dans l'oreille quand on les connaît pas. Et donc, c'est presque un peu vexé, un peu, je comprends pas le monde qui m'entoure, alors que c'est mon métier, je suis reporter, j'ai envie de comprendre ce qu'il y a. Et donc, l'idée a fait son chemin entre le moment où on a offert la place de concert à ma fille et le moment où on est allé au concert. Il y a eu la une du Time Magazine entre les deux. Et là, je me suis dit, effectivement, il se passe quelque chose. Vous l'avez dit, c'est un moment de bascule. Et elle est passée dans autre chose, Taylor Swift. D'ailleurs, c'est difficile de trouver un terme, vous l'avez dit aussi, pour ce phénomène qui est plus qu'un phénomène. Il y a pas de mots. C'est pas une star, c'est pas une méga star, c'est pas une giga star, c'est plus que ça. Et donc, je me suis dit, bah, pour essayer de comprendre, je vais aller au concert avec ma fille. Et puis, petit à petit, c'est devenu une idée de podcast. On va aller aux États-Unis sur les traces de Taylor Swift, là où elle a commencé, là où elle a explosé, etc., avec ma fille, pour essayer de comprendre.
Alors, d'un point de vue de la musique d'abord, on va parler finalement de Taylor Swift et de ce phénomène, les ingrédients du phénomène, mais concernant sa musique, quel regard vous portez sur sa musique? Bon, il y a un tournant pop assez évident, hein, qu'on vient d'entendre, au début c'est la country. Qu'est-ce que vous lui trouvez comme talent, musicalement? Vous avez au début, ça me... Bon...
Alors, je ne suis pas spécialiste musique. Je ne suis pas particulièrement doué en musique ou expert en musique. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est pas forcément la meilleure chanteuse du monde, c'est pas la meilleure danseuse du monde, mais le talent qu'elle a, et c'est ça que j'ai découvert en parlant avec ma fille, puis ensuite avec des tas de gens sur notre route pour le podcast, c'est que le grand talent de Taylor Swift, c'est son écriture. C'est-à-dire qu'elle arrive, et les Swifties vous le disent, à mettre des mots simples sur des choses compliquées, sur des sentiments de tous les jours, que ce soit évidemment les ruptures, les sentiments amoureux, etc., mais aussi l'amitié, comment on se comporte au sein d'un groupe d'amis. Ma fille m'a beaucoup parlé de la vie au collège, qui est une vie, une mini-société où voilà, il y a une pyramide, il y a des populaires, des moins populaires, etc. Et Taylor Swift parle beaucoup de ça, parce qu'elle a commencé très jeune sa musique, donc elle a raconté, Taylor Swift, on l'a entendu, c'est chaque chanson, c'est un livre de son journal intime. Mais elle arrive, en parlant d'elle, à parler à tout le monde. Et ça, c'est un truc qui revient à chaque fois dès que vous parlez avec des gens qui connaissent Taylor Swift, pas forcément qui sont fans, mais qui connaissent, qui savent, qui ont décrypté son écriture. Ils disent, voilà, elle arrive à parler à tout le monde. Au point que, et c'est un des épisodes du podcast, on est allé avec ma fille à Harvard, où il y a une prof au département d'anglais d'Harvard qui a tenu un semestre de cours, Taylor Swift, avec 200 étudiants dans l'amphi à chaque cours.
Oui, quand même. Alors, j'ai le sentiment, en racontant son histoire, que ce n'est pas une construction artificielle à coup de conseils, de communication, musicaux, tout ce que vous voulez. On sent qu'elle arrive, elle est ce qu'elle est. Il y a une sorte de sincérité. Est-ce que ça explique son succès?
Oui, c'est ce qui est beaucoup dit à propos d'elle, c'est qu'elle est la girl next door, la fille d'à côté parfaite. C'est-à-dire, c'est... Contrairement à d'autres stars, par exemple, je pense à Beyoncé, qui ont un côté un peu extraterrestre, Taylor Swift, vous pourriez la croiser dans la rue. Elle pourrait habiter la maison d'à côté. Et c'est ça qui fait son succès au début. C'est que c'est vraiment la voisine, la copine. Et d'ailleurs, elle est une copine pour ses auditrices dans ses chansons. Donc ça, c'est vrai qu'au début, il y a ce naturel qu'elle a gardé. Alors après, aujourd'hui, la communication est beaucoup plus contrôlée chez Taylor Swift, mais... C'est le point de départ, c'est cette authenticité. Et d'ailleurs, dans le podcast, en rencontrant des gens qui l'ont connue, qui ont travaillé avec elle, etc., ça revient toujours. C'est son authenticité, c'est le mot qui revient. Elle est authentique, elle est sympa, elle est facile, elle est simple. D'ailleurs, au début, elle avait des relations avec ses fans très, très proches. C'est-à-dire qu'elle invitait ses fans chez elle. Elle faisait des cookies et elle leur faisait écouter les nouveaux albums ou les nouvelles chansons. Alors, elle le fait un peu moins maintenant.
Oui, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué, mais il y avait ça dans cette... Et elle a continué ça longtemps dans les concerts qu'elle fait. Elle les fait venir avant, après. Ils sont sélectionnés par son équipe. Elle passe du temps avec eux. Il y a des vidéos de fans qui vont la voir avant ou après un concert. Et puis, il y a des demandes en mariage devant elle.
Est-ce que la dimension féministe, sororale en tout cas, de ces récits, c'est quelque chose qui compte?
Oui, et ça je m'en suis aperçu en discutant beaucoup avec ma fille, donc, qui est une adolescente, une adulte en construction, une jeune fille, bientôt une femme. Et effectivement, c'est pas présent dans toutes les chansons de Taylor Swift, mais c'est quelque chose qui est présent voilà, à travers son œuvre. Elle a son expérience personnelle, dont vous avez
raconté,
son agression sexuelle, qui est une espèce de qui a réveillé chez elle sa conscience politique, en tout cas qui l'a incité à se prononcer politiquement. Mais effectivement, elle parle à tout le monde, mais beaucoup d'abord aux filles et aux femmes, parce qu'elle raconte son expérience de fille et de femme au collège, dans le monde de la musique, partout dans le monde. Et dans les discussions qu'on a eues avec ma fille dans la voiture et qu'on entend dans le podcast, il y a ça aussi. Moi, je me suis aperçu que, en fait, traverser le collège en tant que fille, c'est pas du tout pareil que traverser le collège en tant que garçon. Alors, on n'avait pas la même génération, mais ma fille m'a demandé, m'a dit, mais les filles, comment tu les considérais au collège? Comment tu les respectais? Est-ce que tu étais au courant des règles? En fait, non. Voilà, à 13-14 ans, un garçon n'est pas au courant. On ne raconte pas. Et en fait, toute cette dimension féministe, elle est présente dans l'œuvre de Taylor Swift. D'ailleurs, c'est une des explications de son succès, c'est que Taylor Swift est une sorte de reflet de notre époque. Et là, depuis quelques années, on voit que les femmes prennent la parole, prennent le pouvoir, veulent combattre le patriarcat, veulent plus de place, et Taylor Swift est une sorte de leader dans ce combat.
Et précisément sur son agression sexuelle, on peut revenir quelques secondes pour préciser les conditions exactes de cette affaire.
Alors, elle était à un photoshoot, comme on dit, avant un concert. Il y avait un DJ animateur de radio locale qui lui met la main sous la jupe et lui attrape les fesses. Sur le coup, elle dénonce ça à sa mère, qui est très présente toujours autour d'elle. Le type est expulsé du concert. Ça se sait, son employeur le vire, et ça en reste là. Sauf qu'un peu plus tard, cet homme porte plainte contre Taylor Swift, disant « Elle m'a accusé à tort, c'était pas vrai, j'ai perdu mon emploi, etc. » D'habitude, les stars de l'ampleur de Taylor Swift, elles règlent ça derrière des portes closes, on fait un accord financier, voilà, le type veut de l'argent, comme ça, ça fait pas de vague. Sauf que Taylor Swift, et c'est là aussi où elle est admirée par ses fans, dont ma fille, c'est qu'elle a dit « Bah non, mais en fait, ça s'est vraiment passé, donc j'ai pas du tout de raison de donner de l'argent à ce type, d'ailleurs, je lui en demande. » Elle a contre-attaqué en disant « Moi, je demande $1 symbolique. » Il y a eu ce procès, extrêmement médiatisé, vous l'avez raconté, où elle était très forte dans ses paroles, et quand les avocats de la défense essayaient de lui faire minimiser ce qui s'était passé, elle disait « Non, non, il m'a attrapé le cul. » Voilà, elle disait ça, et en fait, on a rencontré avec ma fille à Nashville des femmes formidables qui s'occupent du centre contre les agressions sexuelles dans le Tennessee, et qui ont dit que ce moment-là a été extrêmement important pour elle, qui porte ce combat, parce que quand Taylor Swift dit ça et que c'est relayé par les médias, il y a des victimes qui appellent le centre, en fait, beaucoup plus. Ils disent « Si Taylor Swift le fait, moi je peux le faire aussi, je peux avoir ce courage. »
Évidemment.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Xavier Yvon, je rappelle que vous êtes le chef du service reportage de France Inter et producteur du podcast France Inter consacré à Taylor Swift et qui est mis en ligne aujourd'hui même. J'ai fait mon petit calcul, il est simple. La carrière de Taylor Swift a commencé il y a 18 ans avec l'avènement du numérique. Est-ce que c'est pour cette raison qu'elle incarne parfaitement cette révolution à la fois technologique et sociologique?
Complètement, on peut... Enfin, Taylor Swift, c'est le reflet de notre époque, de l'âge d'Internet. Quand elle sort son premier album, qui s'appelle Taylor Swift, en 2006, Facebook existe depuis 2 ans, mais c'est pas très connu. Il y a MySpace, elle utilise beaucoup MySpace dès le début. Spotify vient d'être créé en 2006. On est à un moment où l'industrie de la musique est en train de... Voilà, le CD est en train de s'écrouler un peu, la musique digitale commence à arriver, mais on sait pas trop comment ça va fonctionner, le modèle économique, etc. L'iPhone n'existe pas. Et aujourd'hui, 18 ans plus tard, Taylor Swift, c'est la reine d'Internet, c'est la reine de l'âge d'Internet, c'est la meilleure pour communiquer sur les réseaux sociaux. Donc je rappelle, elle a commencé avec MySpace à une époque où personne ne savait ce que c'était, et elle a parlé avec ses fans, elle a toute sa carrière, elle a entretenu cette communauté. Aujourd'hui, sur Instagram, on a dit 280 millions de fans, elle sait alimenter ses fans avec des quiz, avec des devinettes, elle les intègre à toute sa démarche. Donc elle a tout compris d'Internet, de comment ça marche. L'industrie de la musique, pour rappeler un truc, c'est qu'en 2014, Taylor Swift, elle a fait une tribune dans le Wall Street Journal. Journal. Pour expliquer que non, l'industrie de la musique n'était pas morte, parce que le CD s'écroulait, etc. Et que l'avenir de l'industrie, ça passait par les fans. Et elle avait tout mis en place avant.
Elle est très intelligente, certaines femmes.
Oui, c'est une redoutable femme d'affaires.
Alors, est-elle une femme politique? Non, bien sûr, c'est une chanteuse. Mais on sait qu'une chanson ne peut pas changer le monde. Rarement, effectivement, quand des artistes soutiennent des politiques, ça marche. Rarement, parfois. Et là, j'ai l'impression que c'est une vraie dimension. L'élection américaine prochaine interviendra dans deux mois, même pas 2 mois. Et là, les Trump sont vraiment inquiets?
Oui, il faut voir la réaction de Trump quand Taylor Swift a annoncé son soutien à Kamala Harris. Il a dit... je déteste Taylor Swift. On a bien vu qu'il l'a détesté, il l'a détesté pas du tout dans votre récit. Il y a évidemment une panique, une inquiétude chez les Trumpistes. Pour le podcast, on est retourné dans la région natale de Taylor Swift, où elle a vécu jusqu'à ses 13 ans. C'est la Pennsylvanie. La Pennsylvanie, c'est le plus important des swing states dans l'élection. C'est 19 ou 11 électeurs. Et là-bas, on a rencontré des militants républicains, des militants Trumpistes qui avaient peur. Donc, ils disaient, oui, c'est sûr, elle va inciter des jeunes à aller voter alors que les jeunes ne votent pas beaucoup aux États-Unis, ça va jouer sur le vote jeune. Alors après, est-ce que ça fait gagner une élection? Ça, voilà, c'est difficile de se prononcer. Mais non, ce qui est important, c'est que l'élection américaine, là, se joue, et comme toujours, dans quelques États, les swing states. Dans ces États-là, c'est toujours très serré, et ça joue à quelques milliers de voix. La Pennsylvanie, par exemple, Biden la gagne en 2020, Trump en 2016, à chaque fois, c'est quelques dizaines de milliers de voix. Et si Taylor Swift peut convaincre quelques dizaines de milliers, plutôt de jeunes électeurs, d'y aller, ça peut faire basculer, mais bien ça sûr. Jouera à la marge. C'est l'influence qu'elle peut avoir.
Voilà. Mais est-ce que son engagement politique était forcément attendu par ses fans?
Oui, il y a un moment où elle devait se prononcer. En fait, en 2016, quand elle ne dit rien entre Hillary Clinton et Donald Trump, ça lui a été reproché de ne pas se prononcer pour Hillary Clinton, de ne pas empêcher l'élection de Donald Trump. Ça lui a été reproché, elle se l'est reproché. On a entendu l'extrait du documentaire Miss Americana dans votre récit, et effectivement, elle l'a mal vécu. Elle s'est dit, j'aurais dû faire quelque chose. Elle le dit en pleurant, elle dit, je dois être du bon côté de l'histoire. Donc oui, c'était attendu. Et c'était attendu que ce soit du côté démocrate. Après, elle le fait à sa manière, avec un post Instagram, très bien écrit, très bien étudié. D'ailleurs, elle le fait habilement. Elle ne dit pas à ses followers, à ses abonnés, elle ne dit pas, allez voter Kamala Harris. Elle dit, j'ai fait mes recherches, voici les causes que je défends. Elle les défend, pas l'autre, donc je vais voter pour elle. Faites vous-même vos recherches, inscrivez-vous sur les listes électorales et allez voter.
Dernière chose, comment une star planétaire comme elle gère-t-elle sa vie privée?
Alors sa vie privée fait partie de
sa vie publique.
De sa vie publique, puisque tout est dans les chansons. Vous avez des chansons où il y a le nom de ses petits amis. Quand elle a rompu avec un petit ami, il peut être sûr que quelques semaines, quelques mois plus tard, il y aura une chanson sur lui. Avec ou sans son nom, mais voilà. Mais ce qui est assez formidable, c'est que même si elle parle d'elle, de choses très précises, encore une fois, elle parle à tout le monde. Ça résonne chez chacun et chacune d'entre nous.
Elle est très, très douée quand même, parce qu'elle vise au plus juste de ce qu'elle doit faire par rapport aux effets que ça va générer, y compris pour la politique, l'économie, sa carrière de chanteuse. Oui, assurément une femme intelligente, brillante.
Oui, et je suis plutôt heureux que ma fille ait cette femme comme modèle.
Bien sûr. Merci. Au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Taylor Swift, Phénomène Total. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Thomas Allard.
Affaires Sensibles est un podcast France Inter.